Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes mercredi 19 février 2015. Bienvenue à ce débat, le débat qui réfléchit aujourd'hui sur les failles de la gestion des affaires publiques au Mali. Nous aurons, comme il est de coutume, trois thèmes dans cette émission, trois thématiques et nous sommes avec trois invités. Amadou Maguiraga, chercheur à l'Institut malien de recherche en action pour la paix, IMRAP, Djibril Diallo, spécialiste du développement, Dr Breima Eli Diko, universitaire et chercheur. Bonsoir à vous messieurs et merci de répondre à notre invitation. Je suis Famoussa Sidibé, Pétingera est à la mise en onde. Les failles de la gestion des affaires publiques au Mali, ce quatrième et dernier thème du dernier rapport de l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, fait cas donc de quatre volets essentiels, la justice, l'éducation, la santé et la sécurité, avec de profonds sentiments d'inégalité en fonction des régions. Chacune des zones estime que les priorités sont accordé à d'autres. Alors, nous allons voir avec le représentant de l'IMRAP à ce débat que dit le dernier rapport de l'IMRAP sur ce cas précis des défaillances de la gouvernance au Mali.
Ok, merci bien. Tout d'abord, je tiens à préciser une chose. Le thème du débat aujourd'hui, ça porte sur le troisième chapitre au lieu du quatrième. C'est le troisième chapitre par rapport à la gouvernance et de l'accès aux ressources et aux services publics. Il y a le quatrième chapitre qui porte sur la gestion des conflits locaux et rébellions armées au Mali. Donc nous sommes aujourd'hui sur le chapitre 3. En fait, comme vous l'avez dit, lors de nos passages sur le terrain, sur la mission de consultation, dans les différentes régions, dans le district de Bamako, en passant par les deux camps de réfugiés que nous avons eu l'occasion de visiter, les populations ont exprimé ce sentiment, qui pense que le service public aussi aujourd'hui n'est pas délivré à hauteur de souhait. Et pour ceci, ils ont donné beaucoup plus de raisons, qui vont des raisons entrer avec le comportement de certains agents. Et certaines populations ont eu le courage aussi de reconnaître que dans la défaillance de l'accès aux services publics, qu'il y a aussi une partie de la responsabilité de la population elle-même dans cette déroute de nos différents services publics. Oui.
Alors, les services publics au Mali subissent énormément de critiques. Alors, sur quelle base se focalise-t-on pour donc élaborer ces critiques, Djibril Diallo, spécialiste du développement?
Très bien, moi je commencerai par vous présenter mes excuses parce que je suis un petit peu la voix prise. Et aussi remercier l'ensemble des auditeurs de Tamani pour leur fidélité à cette émission. Alors, pour vous dire que nous sommes sur une lancée de développement et tout ce qui se passe actuellement est un pan de développement jusqu'à atteindre un développement complet. Alors, le développement complet, il est difficile de l'atteindre sans passer par des soubresauts. Et ces soubresauts, c'est un petit peu de nature à coincer une partie de la population, et à donner beaucoup plus de pouvoir aux représentants de l'État. Et ces pouvoirs des représentants de l'État, ils l'exercent de façon unilatérale, de façon extraordinaire, et ils le font pour eux, c'est-à-dire pour leur propre enrichissement, pour leur propre prestige, au lieu de le faire pour le prestige du peuple et du plus grand nombre. Donc, tout ceci étant, nous sommes sur une lancée qui fait qu'aujourd'hui, les grandes difficultés entre les populations et les gouvernants se trouvent être le blocage du développement et le blocage même de l'inspiration. Parce que, en fait, le peuple qui doit être inspiré pour penser son développement, pour s'enrichir par son travail de ce développement-là. Mais il ne peut pas le faire parce que son accès aux services publics est un dangereux blocage. Il ne peut pas avoir accès aux services publics que lorsque il a les moyens de corrompre. Ça, c'est quelque chose d'hyper compliqué. Donc voilà, tout ce qui corrobore, qui fait que nous sommes sur une lancée sur laquelle les uns et les autres sont obligés de passer par des petits chemins pour atteindre leur objectif. Et ces petits chemins-là ne sont pas des chemins droits. C'est des chemins très épineux et sur lesquels on risque de se faire évincer. Voilà.
Alors, ce rapport est basé sur essentiellement sur des témoignages. Docteur Brema Elidiko, vous êtes universitaire et chercheur. Aujourd'hui, quelles sont les lacunes de l'administration malienne?
Bien, donc bonsoir à tous. Merci au studio Tamani de m'avoir associé à ce débat et merci à l'IMRAP aussi pour cette belle initiative qui consiste à recueillir le discours donc du citoyen lambda, parce que ces citoyens, on ne lui donne pas forcément toujours la parole. Les lacunes, c'est déjà difficile d'en parler parce que c'est tellement complexe. Le Mali est l'un des rares pays où tout reste à faire dans tous les domaines. Nous parlons de la défaillance du service public, de l'accès, etc. Bon, moi, je voudrais d'abord parler en fait en termes d'existence même du service public. C'est-à-dire que selon qu'on soit à Bamako ou qu'on soit dans les capitales régionales ou dans les zones reculées, les services publics existants ne sont pas les mêmes. Donc, on peut même constater l'inexistence de ces services publics. Bon, même si on a initié fait la décentralisation pour rapprocher ça, là aussi, on se rend compte que dans beaucoup de cas, ça n'existe pas. Donc, quand ça n'existe pas, cela crée des frustrations parce que certains Maliens se disent déjà, se considèrent comme étant des Maliens de seconde zone et d'autres Maliens de première zone. Si on veut faire, par exemple, un bon scanner, il faut venir à Bamako. Mmh. Pour certaines analyses, il faut envoyer dans le laboratoire de Bamako. Donc, cela crée des frustrations. Donc, les lacunes, déjà, c'est l'inexistence des services. Bon, même si les services existent, on peut se rendre compte que la qualité des services, souvent, reste à déplorer. Normalement, si on prend le cas de la santé, on va dire qu'il y a en fait une carte sanitaire. Les gens doivent passer par les SESCOM, ensuite par les centres de référence, ensuite par les hôpitaux. Mais cela n'est pas respecté. Quand il y a un accident, par exemple, à Bamako, au lieu de se diriger dans le SESCOM qui est à côté, les gens préfèrent aller dans l'hôpital. Parce qu'on se dit dans le SESCOM, il n'y a pas des gens, un personnel qualifié. Bon, peut-être c'est des préjugés. Si c'est des préjugés, il y a des raisons qui l'expliquent. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément expliqué. Ça, c'est un exemple. Alors, dans d'autres cas, on peut parler de la question de l'accessibilité. L'accessibilité en termes de distance. C'est-à-dire que selon qu'on soit à Bamako, donc là, le service public est accessible, les transports sont là, etc. Mais quand on est, par exemple, dans des régions, je prends les régions du Nord, parce que c'est peut-être les régions qui sont, de ce point de vue, les moins loties, on peut se rendre compte que si on prend service public, on prend une école, l'école peut être située à 10 km. Si on prend la santé, c'est peut-être à 15 km. Une femme qui est enceinte, qui doit accoucher, qui a un truc difficile, c'est souvent difficile. Donc, tout cela, ce sont autant de lacunes. Peut-être un autre exemple, ne pas monopoliser la parole, c'est que même si ces services publics-là existent dans des zones reculées, parce que moi, je parle beaucoup plus de ça, je ne parle pas des villes, c'est que tous les outils nécessaires ne sont peut-être pas disponibles pour les citoyens. Et donc, ça, ce sont autant de lacunes, en fait, que nous, on relève.
Alors, Amadou Magriaga, vous êtes chercheur à IMRAP. Dites-nous, ce rapport est focalisé sur un certain nombre de domaines, notamment la santé, la sécurité et la justice. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés qu'on peut noter dans ce domaine en termes de difficultés d'accès des populations à ces différents services?
Oui, on va le dire surtout en termes d'obstacles à la paix. Hein. Parce que quand on sillonnait le pays, on a juste posé une question aux populations. Selon vous, quels sont les obstacles à la paix? Donc ce sont les obstacles qu'ils ont eu à énumérer que nous avons traduits en rapport. Essentiellement, comme je vous l'avais dit, basé sur les témoignages des participants, mais il y a aussi la recherche académique que nous avons eu à mener pour confirmer ou infirmer, avoir souvent des données exactes de certaines situations que les populations ont eu à dire. En fait, parmi les services publics qui ont été surtout incriminés par la population, il y a effectivement la santé, comme le disait Dico tout de suite, par rapport à même l'accès, à la disponibilité même des services de santé souvent sur le terrain. Et il y a l'éducation et il y a la justice. Ces trois grands services publics ont été surtout décriés par la population. Selon eux, ils pensent qu'il y a un mal qui est là, qui est la corruption, qui frappe en général tous ces trois services publics. Quand nous prenons le domaine de la santé, ils disent que dans les pays, dans les zones reculées où il n'y a pas accès à la santé, le peu de services qui est accessible, souvent il faut payer pour des actes bénins, pour des actes même soi-disant gratuits. Quand nous prenons par exemple l'accès aux assurances maladies obligatoires, par exemple, certains disent qu'ils sont défavorisés. Chaque mois, on les coupe sur leur salaire. Mais puisqu'ils sont en brousse, ils n'ont pas accès à ça. Et du coup, c'est un obstacle à la paix selon eux. L'éducation qui est un droit pour tous les enfants, disent que maintenant les enfants, certains, un de nos participants à Sigasso nous disait que les enseignants, quand ils commencent leur fonction, sachant bien que l'enseignant débutant n'a pas de niveau, on l'envoie en brousse. Comme si les enfants qui sont en brousse ne sont pas les Maliens. Voilà des choses qui frustrent la population et qui n'ont eu à les dire. Donc on a compilé ces différents témoignages en rapport. Par rapport à la justice, elle a été aussi incriminée, comme je le disais, avec la corruption. Mais il faut le dire, certaines populations ont incriminé ces services. Mais d'autres aussi, pendant la période de consultation, ont eu à reconnaître la responsabilité du peuple elle-même. Une femme nous disait à Sévaré que quand il y a toujours corruption parce qu'il y a un corrupteur qui est là, c'est la population elle-même qui va donner son argent. Ce n'est pas le policier qui va te chercher dans ta maison pour te demander de l'argent. Voilà. Donc ça, y a...
Alors, merci beaucoup Amadou Maguiraga. Djibril Diallo, vous êtes spécialiste du développement. Alors, en quoi est-ce que le fonctionnement actuel des services publics freine le développement au Mali?
Très bien. D'accord, donc je vais d'abord commencer par par Dico, alors qui a pris l'exemple du nord par rapport aux infrastructures et à la présence de l'État. Alors en fait, je crois que ce dialogue là est un obstacle même à la paix, parce que quand on parle exclusivement du nord, alors que ce problème de représentativité et ce problème de corruption, il couvre l'ensemble du territoire. Pour quelqu'un qui a vu la région de Kaï et qui a vu au fin fond de Yélimané, comment est-ce que la femme enceinte est acheminée dans un centre de santé, alors c'est tout aussi difficile au nord qu'au sud. Donc moi je crois que ce dialogue du nord est un dialogue, est un obstacle dangereux à la paix. Donc, en plus, vous avez demandé en quoi
le fonctionnement actuel
freine le développement. Alors, je le disais d'entrée de jeu que le développement doit être initié et pensé par le peuple. C'est-à-dire, quelqu'un qui doit faire son élevage, celui qui pense à son élevage, à comment faire son élevage et à comment trouver de l'argent pour faire son élevage. Alors cette personne-là doit avoir une entrée normale dans un service normal de l'État pour demander son appui et son orientation. Mais alors, pour aller vers ces spécialistes-là, il faudrait non seulement avoir de l'argent pour le faire, quelqu'un qui démarre n'a pas d'argent. Donc, voyez-vous, tout ceci réuni se trouve être un obstacle difficile au développement. Donc, le peuple... qui doit être l'initiateur du développement, qui doit être à la base de son propre développement, n'est pas à l'aise avec les autorités qui doivent l'orienter, qui doivent l'informer, qui doivent le former et qui doivent même le financer, peut-être. Mais même si ce peuple-là a son argent pour aller vers son propre développement, et la corruption se faisant, cet argent avec lequel il doit aller vers son développement est effrité par tout ce beau monde-là qui ne cherche que leur propre privilège. Alors ça, c'est quelque chose d'hyper compliqué.
D'accord. Alors, nous allons observer juste quelques secondes de pause avant la deuxième partie de cette émission. Je rappelle que cette émission est consacrée aux défaillances de la gouvernance au Mali.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Notre page Facebook et notre compte Twitter sont à votre disposition pour continuer le débat et vos réactions sont attendues. Alors, nous vous offrons également une autre plateforme, notre site web www.studiotamani.org pour éventuellement réécouter toutes nos émissions depuis le début de Studio Tamani. Alors, nous sommes donc à cette émission qui est consacrée aujourd'hui aux défaillances constatées dans la gouvernance au Mali. Nous sommes avec trois invités, Amadou Magueraga de l'IMRAP, Djibril Diallo, spécialiste du développement, Dr Brema Eli Diko, universitaire et chercheur. Alors, la corruption au sein de l'administration, Monsieur Diko, vous êtes universitaire. Quelles sont les causes de cette faille que l'on constate aujourd'hui? La corruption intervient comme un maillon essentiel de cette chaîne de gestion. Quelle est sa place et quelles sont ses conséquences au niveau de la gestion des affaires au Mali?
Les conséquences en fait sont énormes. Je voudrais juste avant de répondre à la question dire que je suis tout à fait d'accord avec Djibril. Moi, quand j'ai parlé du Nord, je n'ai pris le Nord comme étant un exemple. J'ai rédigé ma thèse sur les immigrés maliens en France et j'ai fait des enquêtes en France et dans la région de Kayes, donc je connais bien la situation, je vois tout le rôle que les immigrés ont joué. Et puis, pour avoir fait une enquête aussi un peu sur ces régions-là pour le compte de l'ambassade du Danemark, notre conclusion c'était que, en fait, c'était pas uniquement les régions du Nord en fait qui étaient la mais qu'au fond, c'était une opposition entre Bamako et les autres régions. Donc Bamako était mieux loti, les autres régions non. Donc c'était plutôt ça. Alors, les causes de la corruption, c'est assez difficile en fait à dire, parce que au fond, les gens souvent veulent, c'est la méconnaissance, moi je dirais, souvent des droits et des devoirs qui poussent souvent les gens aussi à pratiquer la corruption. Parce que si on prend l'exemple de l'accès, par exemple, à l'état civil dans les mairies, normalement, c'est quelque chose que tous les citoyens, en tout cas maliens, ont droit. Mais certains, pour peut-être l'avoir rapidement, pour ne pas attendre le délai imparti, préfèrent soudoyer l'agent qui s'occupe de ça pour avoir son papier rapidement. Donc, ça c'est un peu une des causes. L'autre cause aussi, les gens se disent, enfin, c'est pas forcément dans la réalité, ils se disent, si je ne contribue pas un peu, si je ne donne pas un peu, ça ne marche pas. Et croyant cela, ils ont tendance en fait à donner un peu d'argent en espérant que donc le dossier va être accepté. Bon, ça c'est une des choses aussi. Mais si les gens aussi font la corruption, parce qu'on se rend compte qu'il y a une large compétition. C'est-à-dire que si on prend le domaine de l'emploi, pour avoir accès à un emploi aujourd'hui, les gens se disent oui, il faut avoir des bras longs. Bon, vrai ou faux, en tout cas, on peut toujours trouver une part de vérité. Et lorsque la compétition est forte, lorsque vous êtes 10 en fait à postuler pour un seul poste, les gens se disent il faut oui, pour maximiser ma chance, je donne un peu en espérant que je vais avoir un travail. Et quand j'aurai le travail, bon, je pourrai réavoir en fait tout ce que j'avais déjà investi dedans. Donc, ça, ce sont autant de causes. Et aussi, il y a le fait que certains agents de services publics encourage aussi cette pratique. On peut aller dans une mairie, on a un dossier qu'on doit déposer en fait à 14h. On va nous dire que le maire est absent, ou bien il est en réunion. Mais si vous donnez peut-être 1000 francs, peut-être qu'on va voir si on peut le déranger. Donc comme là on est pressé, et comme lui aussi l'a proposé, donc on s'est dit, bon, c'est gagnant-gagnant, je donne 1000 francs, ça ne me coûte rien. Parce que si je ne donne pas les 1000 francs, peut-être que mon document ne sera pas légalisé, etc. Donc ça, ce sont en fait autant de choses. Donc en fait, il y a la méconnaissance. Il y a le fait que les gens aussi aiment la facilité. On ne veut pas forcément suivre les règles de droit. Donc peut-être que s'il y avait une large sensibilisation sur la délivrance même des services publics pour dire, pour avoir accès à l'acte de naissance, pour avoir accès à la carte d'identité, pour avoir accès au passeport, voilà en fait les papiers qu'il faut apporter. Là-dessus, on ne communique pas forcément. Et donc, comme il n'y a pas de communication, les gens viennent comme ça, ils s'adressent au premier en fait, qu'ils rencontrent sur le portail, et ce premier, forcément, n'est pas toujours de bonne foi, ils donnent les informations, et comme le citoyen en fait, a besoin d'accéder au service public, il pense que c'est la seule modalité pour avoir accès en fait, à ce service public, donc lui, il s'adonne à ça, sans se rendre compte, dans un premier temps, que c'est de la corruption. Donc, en fait, il y a de la corruption volontaire, mais souvent, en fait, on va dire qu'il y a de la corruption qui est encouragé par l'agent du service public, mais souvent en s'appuyant sur l'ignorance en fait des citoyens en fait qui a besoin d'avoir accès à ce service-là. Quoi.
D'accord. Alors la corruption, quelle est sa place dans la gestion des affaires publiques, Amadou Omagiraga de l'IMRAP?
En plus de la corruption, je voulais même ajouter le poids de nos relations sociales. Quand nous prenons le domaine de la justice. Nous, chaque fois, c'est vrai, 80% du contenu de notre rapport repose sur ce que les gens ont dit. Mais parmi ces gens, il y a le citoyen lambda qui est là, il y a le juge qui est là. Nous avons certes écouté la population au fin fond du Mali sur tout ce qu'ils ont dit sur la justice. Il serait injuste pour nous de ne pas écouter aussi les juges ou les magistrats qui ont la main dans la pâte tous les jours. Donc chaque fois que les populations chargent une autorité, nous on fait en sorte d'avoir accès à l'autorité en question et de recueillir son point de vue en la matière. Nous avons eu la chance de rencontrer certains magistrats qui ont bien voulu participer à la recherche, qui nous ont dit, c'est vrai, les gens parlent de corruption, mais qu'il y a aussi le poids de la société qui est là. Ils nous racontaient une histoire qu'un jour, un chauffeur avec un ben sans phare ni frein a percuté un motocycliste. Et la nuit, c'est le chef de village, c'est l'imam, c'est toutes les notabilités du quartier qui se rend chez le commandant de brigade en question pour le supplier de libérer le monsieur en question qui était en infraction grave. Et sous ce poids, si le commandant de brigade y cède, la population lambda qui est là, qui ne sait pas la pression de la société que le commandant a eu sur lui la nuit, peut-être, va dire que voilà, il a cogné le motocycliste aujourd'hui, demain on le libère. Donc en plus de la corruption, il y a le poids de la société qui a été aussi indexé par certains de nos responsables qui disent qu'ils sont aussi victimes de ça. Et souvent on dit que tu ne peux pas dire non à tout le monde. Tu vois, non. Donc, en plus de la corruption, il y a ça aussi à noter. Mais la population lambda est là, mais ils pensent que tout ça combiné est un obstacle à la paix. En ignorant souvent leur couleur et responsabilité, certains le disent aussi. On dit le discours nord-sud dont M. Diko disait, c'est le paradoxe qu'on a eu à rencontrer sur le terrain. On a rencontré quelqu'un à Kai qui nous dit que quand tu écoutes les chaînes, quand tu écoutes surtout la télé malienne ou la radio malienne, qu'on ne parle que du Nord. Tous les ONG vont au Nord. Qu'eux, ils sont à Kaï, ils sont oubliés. On a eu la chance d'être à Tombouctou. Et paradoxalement, un monsieur nous raconte la même chose. Qu'eux, ils sont à Tombouctou, ici, on les a oubliés. Et tout ce que l'État fait, c'est vers le Sud. Donc, si une partie, c'est la faible visibilité ou la faible traçabilité de ce que l'État fait sur le terrain. Chacun pense qu'il est défavorisé, alors que quand on rencontre les autorités, il y a des efforts qui ont été fournis à la matière. On a eu la chance de rencontrer des responsables, des gens qui ont eu à diriger des grands projets gouvernementaux pendant les 10 ou 20 dernières années, qui nous ont fait l'état de lieu de ce qu'ils ont fait sur le terrain. C'est remarquable, mais il y a aussi une faible visibilité de ce que l'État pose comme action de développement sur le terrain.
D'accord. Alors, Djibril Diallo, juste avant de vous donner la parole, Brema Ilidiko, je pose cette question à Djibril Diallo. L'État peut-il se ressaisir après tout ça?
Très bien. Écoutez, moi je suis obligé de réagir à toutes les questions assez rapidement et puis venir à la question de ressaisissement. Parce qu'en fait, la corruption, c'est qu'on s'est écarté de nos fondements sociaux, culturels. C'est-à-dire, il était impensable dans nos sociétés de base, il était impensable que quelqu'un puisse être corrompu. Parce que les gens étaient sérieux, les gens avaient un sens pour l'équité. Et les gens voulaient travailler de façon normale et consensuelle. Donc ce qu'il fallait pour X, et si X et Y sont à la même hauteur, il le faut aussi pour Y. Donc, mais aujourd'hui, cette corruption, c'est que ça prend beaucoup plus source dans la mauvaise éducation. Parce que nous avons été triplement colonisés. Nous avons eu la colonisation arabo-berbère, qui a laissé l'islam. Nous avons la colonisation française, qui a laissé ce que tout le monde voit. Mais nous avons la colonisation afro-africaine, c'est-à-dire les gens que les Toubabs ont laissé et qui ont imité les Toubabs en les dépassant. Vous comprenez? Donc, eux, ils ont, au lieu de...
Donc vous parlez là de l'administration coloniale.
L'administration coloniale a laissé une administration qui l'a remplacée. Et cette administration était pire que l'administration coloniale parce qu'elle exerçait beaucoup plus pour ses propres intérêts. Et au lieu de penser à l'ouverture d'esprit, au lieu de penser à l'éveil de conscience, alors ils pensaient beaucoup plus à autre chose.
C'est-à-dire, tout ce qu'eux, ils n'ont pas pu avoir, et tout ce qu'ils voyaient que le colon pouvait faire, c'est ce qu'eux, ils ont commencé à faire. Donc, effritant, si vous voulez, notre système culturel de base. Donc, on a déposé notre système culturel de base. On n'a pas pu, parce que le système culturel de base du colon, qui est un système français, est basé sur l'écriture et la lecture. Vous comprenez ? Alors, donc, en tant que tel, nous sommes analphabète à près de 80%, donc ça ne nous sied pas trop. L'État peut se ressaisir lorsque la volonté politique est là. Parce qu'il faut une volonté politique. Quoi que l'on dise...
Est-ce qu'elle est là ?
Non, mais si elle est là, on ne serait pas autour de cette table. Il n'y a aucune volonté politique pour aujourd'hui que l'État se ressaisisse. C'est-à-dire dans le discours, il n'y a aucun problème. Les meilleurs discours se font chez nous. Mais dans la pratique, je crois que la diversité culturelle est face à notre système éducatif est un très grand problème. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à atteindre. Il faudrait que l'on sache que ce qui est valable pour le bobo n'est peut-être pas valable pour le peul. Ce qui est valable pour le peul n'est pas valable pour le sorail. Donc, nous, on a une diversité culturelle telle que Beni Gembredo, quoi. Voilà. Mmh. C'est-à-dire, ce qui fait que la chose devient très difficile. Mmh. Et on doit juste se référer à l'État qui se fait absent sur l'ensemble du domaine. C'est-à-dire, partout où tu as besoin de l'État, tu ne trouves pas l'État.
D'accord. Alors, nous allons permettre à Dr Brema Elidiko, universitaire-chercheur, de réagir.
Bien, donc moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, en fait, mes amis. La corruption, c'est vrai qu'elle est devenue culturelle. C'est-à-dire que, finalement, il y a des choses que les gens font. On ne considère même plus, alors qu'en fait c'est ce qu'on appelle la petite corruption quotidienne. J'ai parlé de l'exemple dans les mairies, enfin de le petit soudoiement qu'on fait. En fait, il y a aussi le poids du social, c'est-à-dire que nous vivons dans des villes, la ville a ses contraintes, il y a beaucoup de dépenses à faire, et donc ce sont d'autres réalités socio-économiques en fait qui sont là. Et donc le poids du social intervient dans la mesure où souvent on a un seul fonctionnaire issu d'une grande famille. Et donc, comme malheureusement, si on prend l'exemple de l'université, comme je suis universitaire, à part l'université de Ségou qu'on a créée, tous ceux qui obtiennent par exemple le bac, il y a maintenant plus de 100 000 étudiants maliens. Ils viennent d'où ? Ils viennent des régions et ils viennent habiter où ? À Bamako, où les capacités d'accueil dans les campus universitaires sont très très faibles, pour dire précaires. Et donc les gens en fait voient aller habiter chez des parents. Souvent c'est des amis, enfin bon, on va dire des parents, de la grande famille. Et puis ces amis, enfin ces parents-là, souvent n'ont pas forcément les moyens, en tout cas s'ils travaillent, hein, qu'ils soient dans le privé ou qu'ils soient dans le gouvernemental, dans la fonction publique, ils ont souvent des salaires modiques. Et pourtant, le coût de la vie augmente tous les jours. Vous avez 10 bouches à nourrir, un loyer de 50 000, 75 000 francs à payer, vous avez le transport des enfants à payer, il n'y a pas d'assurance maladie, d'assurance chômage, rien du tout. Et donc vous êtes obligé, d'une certaine manière, entre guillemets, de prendre à gauche, à droite. Et donc, cela, ça, c'est vraiment, je pense, un des poids importants. Parce qu'ailleurs, il y a une sécurité sociale pour tous les citoyens du pays. Ailleurs, quand on a un diplôme ou on a une qualification, on peut s'inscrire à l'ANPE, avoir des formations et puis avoir même une indemnité par mois. Je prends l'exemple de la France, c'est au moins 500 euros par mois qu'on verse au chômeur qui est inscrit à l'ANPE. Donc, cela n'existe pas chez nous. Et donc, on a des diplômés souvent qui ont bac plus 4. L'université ou les universités maliennes, comme il y en a plusieurs maintenant, sont beaucoup plus devenues des fabriques de chômeurs. Mmh. Et donc ces chômeurs-là vont continuer à habiter. Donc on espérait qu'à la fin, avec Bac plus 4, on peut travailler. Mais ce n'est pas toujours, tout à fait le cas. Donc il y a ce cas-là. Il y a aussi l'appât du gain facile et rapide. Donc cela peut pousser beaucoup aussi à vouloir acquérir facilement de l'argent, de gauche à droite. Et parce qu'au fond, le salaire des personnes ne le suffit. D'une certaine manière. Donc, c'est ce que les gens se disent. Mmh. Et puis, souvent, en fait, on a tendance en fait, à courir derrière les biens importés, comme les téléphones qu'on vend à 500 000, comme les belles voitures, les belles villas et autres. Donc, si le salaire, en fait, n'est pas suffisant, évidemment, il faut trouver d'autres voies et moyens pour acquérir.
Voilà. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Les insuffisances de la décentralisation, c'est donc le troisième thème de cette émission consacrée aux défaillances de la gestion des affaires publiques au Mali. Nous sommes avec trois invités, Amadou Maguirega, chercheur à l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, Djibril Diallo, spécialiste du développement, Dr Brema Eli Diko, universitaire et chercheur. Alors, 20 ans de décentralisation et tous les ans, on parle de défis. Alors, on en vient à se poser la question, à savoir si finalement la décentralisation n'est pas un concept inadéquat au Mali. Djibril Diallo.
En fait, je venais de dire que nous nous sommes écartés de notre culture de base. Et notre culture de base, dans notre culture de base, tout ceci n'était pas un problème.
Mais aujourd'hui, la décentralisation, c'est un concept qui a été mis en œuvre depuis 20 ans. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire
l'état des lieux? Oui, mais l'état des lieux, il faut le faire, mais l'état des lieux se fait tout seul. Parce qu'il est déjà fait, l'état des lieux. Parce qu'en fait, la décentralisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de donner la latitude à chaque commune de pouvoir se développer, de pouvoir programmer son développement et de pouvoir arranger ses activités. Mais cela ne peut se faire sans transfert de compétences. Et le transfert de compétences doit s'accompagner de transfert de ressources. Depuis 20 ans, il y a la transfert de compétences. Et le transfert de compétences, je vais dire, nous l'avons juste sur une petite partie. Et ce même transfert-là, il n'y a pas du tout de transfert sur le point des ressources. Alors donc, ceci compromet dangereusement le développement des communes. Et regardez, moi je dis, des jeunes sont venus me voir un jour à la maison pour me dire qu'ils ont fait leur association de développement et qu'ils souhaitent que je les appuie pour qu'ils aient leur récépissé au niveau de l'administration territoriale. J'ai dit non, mais vous avez une mairie. À partir de la mairie, faites votre demande. La mairie peut vous donner déjà votre récépissé. Ils disent que non, il faut le récépissé, qu'on leur a dit à la mairie qu'il faut le récépissé du gouverneur. Mais attends, de l'administration territoriale. Moi je dis, attends, je n'ai pas vérifié, mais je dis encore une fois que si les mairies ne peuvent même pas répertorier eux-mêmes leur association de développement et s'envoler vers le développement avec eux, ben j'ai dit que le monsieur de Taoudéni ou celui de Kay, du fin fond de Kay, qui doit venir jusqu'à Bamako pour obtenir son récépissé, moi je ne vois pas comment est-ce que lui il va assez rapidement vers son développement.
D'accord.
Donc je vais vous dire que l'état des lieux de cette décentralisation, vraiment, la décentralisation est aujourd'hui dangereusement mise en cause parce que, en fait, elle ne développe vraiment pas.
Alors, Amadou Maguirega, vous êtes chercheur à IMRAP. Votre avis sur la décentralisation, les 20 ans de décentralisation au Mali?
En fait, il n'y a pas d'avis personnel à le dire, à dire là-dessus, mais il y a ce que les gens nous ont dit sur le terrain. Comme je l'ai dit, chaque fois que nous écoutons la population à la base, on écoute les autorités, elles aussi. Les populations nous disent que la décentralisation est perçue par elles comme étant un obstacle à la paix. Selon elles, au lieu que la décentralisation soit une solution à leurs problèmes, elle est devenue la cause du problème elle-même. Pour cela, il y a plusieurs raisons, entre autres le transfert de compétences. Les élus vont vous dire qu'il y a eu décentralisation sur papier, mais dans les actes, que les transferts n'ont pas suivi le discours. Quand vous écoutez les autorités un peu plus haut, l'administration territoriale en l'occurrence, elle vous dit que le peu de choses qui a été transféré aux collectivités territoriales n'a pas été bien géré. Et qu'est-ce qu'il allait en devenir si on faisait aussi les transferts des ressources dont les maires prétendent? Voilà, il y a un débat à la matière. Nous, en tant qu'institut de recherche, on n'a pas d'avis à le dire. À dire là-dessus, on est juste neutre, on fait juste la transmission de l'information. Mais il y a aussi une chose, une plaie aussi qui engendre la décentralisation qui nous a été dite sur le terrain, c'est la cohabitation entre pouvoir nommé, pouvoir élu et pouvoir traditionnel. Certaines populations vont vous dire on ne sait pas réellement qui fait quoi. Surtout dans le domaine de la gestion du foncier, par exemple. On ne sait pas si c'est le chef de village qui attribue, si c'est le maire qui attribue, ou si c'est le préfet qui attribue. Donc voilà des problèmes auxquels la population fait face quotidiennement, tous les jours, qu'elles ont eu l'occasion lors de nos passages à nous dire comme étant, selon à leurs yeux, un des obstacles majeurs à la paix aujourd'hui au Mali.
D'accord. Alors, 20 ans de décentralisation, les lacunes avec vous, Brema Elidiko, vous êtes universitaire.
Bien, merci. En fait, alors la décentralisation, moi je voudrais juste rappeler qu'il n'y a pas de système politique parfait, c'est une réforme administrative. C'est vrai que ça fait 20 ans, mais bon, on va dire que c'est beaucoup plus longtemps que ça quand même. Parce qu'il y a eu des communes mixtes pendant la colonisation, il y a des communes de moyen exercice, de plein exercice. Après, les 6 communes de Bamako ont été créées en 77, en 81 on en a créé. Donc c'est seulement dans les années 90, avec la conférence nationale, que bon, tout cela donc, est réparti. Donc en fait, elle existe depuis longtemps. On amène la décentralisation, c'est pour pouvoir rapprocher un peu l'administration en fait, donc, des administrés. Donc comme ils l'ont dit, le transfert des ressources est important, tout cela est important. Bon, on peut dire que c'est bien, c'est pas bien, bon là on serait dans le jugement, dans le normatif. Moi je voudrais simplement dire que donc, c'est un processus, ça prendra du temps. On peut quand même constater que dans beaucoup de communes, cela a favorisé la mise en place des jumelages. Je prends, lui, Djibril Diallo parlait de l'exemple de la région de Kaï. C'est quand même une des régions emblématiques de ce point de vue qui a pu pallier en fait à cette lacune de l'absence de l'État en mettant beaucoup en place, en fait, en misant beaucoup sur les jumelages avec les collectivités, notamment françaises. Quand on prend l'exemple de Yelimani qu'il a évoqué, avec le programme PADI, où on a investi quand même plus de 5 milliards, sans, bon, l'État était là, l'État est toujours sollicité, mais c'est beaucoup plus les immigrés, c'est grâce à la décentralisation que cela a été possible. Je me dis bien que ni c'était la décentralisation, s'il fallait passer par Bamako, signer tous les papiers, peut-être que, justement, l'argent-là n'allait pas peut-être arriver à Yelimani dans le temps, etc. Donc, de ce point de vue, cela a favoriser la chose. Bon, quand on a créé des communes, on a créé donc des mairies, et ces mairies maintenant sont beaucoup plus proches, en tout cas géographiquement, de certains citoyens que, par exemple, les sous-préfectures et les préfectures qui existaient avant. Avant, il fallait peut-être parcourir 20-30 km pour aller à la préfecture pour faire un acte d'état civil ou peut-être faire la carte d'identité ou autre. Mais maintenant, on peut quand même, avec les 703 communes, reconnaître que donc l'accès,
il y a une proximité,
géographique. Donc ça, c'est important. Maintenant, les lacunes, aucun processus donc n'est parfait. La décentralisation a ravivé beaucoup de conflits locaux. Lui parlait donc des difficultés entre les élus locaux.
À discerner.
Même pas seulement ça. C'est-à-dire que en fait, certains ont compris la décentralisation comme le retour du pouvoir au village. Retour du pouvoir au village suppose qu'il y a une chefferie locale, donc qui doit avoir la mainmise. Ce qui fait que si on regarde les premières communes créées en 99, moi j'ai eu la chance de faire mon mémoire de maîtrise là-dessus, en prenant l'exemple de la commune de Konobougou, donc région de Ségou. Pendant les deux premiers mandats, c'est la chefferie locale qui avait la mainmise en fait sur la commune. C'est après que les citoyens se sont dit, non, c'est pas ce que nous on a compris. On a compris la décentralisation comme étant une réforme administrative, mais qui permet en fait à tous les citoyens d'avoir voix en fait au chapitre. Qu'on soit femme, qu'on soit jeune, qu'on soit homme de caste, entre guillemets, ou qu'on soit noble, etc. Que tout le monde puisse en fait avoir la possibilité de
la
se présenter.
Démocratisation
la démocratisation en fait du pouvoir local. Et non en fait une réjouissance des identités. Enfin,
donc, héritage de, voilà, donc, de l'administration centrale.
Centrale, etc. Donc, de ce point de vue, on a quand même assisté à une certaine mobilité sociale de certaines catégories qui, jusque-là, avant, n'étaient pas élus députés ou autres, maintenant, qui ont pu se faire élire comme conseillers. Et de plus en plus, on voit des femmes conseillères, on voit des femmes, qui, à certains postes, femmes maires, etc. Donc, ça, c'est... maintenant, les lacunes, tout reste à faire. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, continuer à communiquer. C'est-à-dire inciter les populations locales aussi à payer les taxes de développement local, les TDL, à payer les impôts. Alors, les gens ne les payent pas. Et c'est toujours dommage de voir que le sous-préfet et les maires se font accompagner par nos hommes de tenue pour obliger les gens à payer. Au lieu d'obliger les gens à payer, il faut se demander pourquoi les gens ne payent pas. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a une crise de confiance. On s'est dit, avec l'ancien système, l'argent, on ne voyait pas d'où ça allait. Tous les jours, on parle des milliards à la télé, etc. Mais d'où vont ces milliards ? Les gens, en fait, donc si en fait, l'argent récolté par les taxes et autres servait justement à réaliser... une école, des structures, ce qui doit être fait, et que si à la fin de chaque année, on devait faire une restitution publique. Parce que comme il y a quand même les PDSEC, les mairies vont dire, oui, nous, pour élaborer les PDSEC, on appelle toutes les couches, les services techniques. C'est ce qu'on dit. Mais quand on fait les enquêtes, les populations vont dire, ah, nous, on n'était même pas au courant. Certains, en tout cas, vont le dire, qui n'étaient pas au courant que le PDSEC a été élaboré. Il n'y a pas de restitution à mi-parcours. Donc, lorsque les gens n'ont pas été associés à cela, on ne peut pas espérer qu'ils s'approprient pleinement donc de la politique, enfin de cette chose.
D'accord. Voilà. Alors, docteur Brema Ilidiko, je rappelle que vous êtes universitaire aujourd'hui. D'après les propos de docteur Diko, il y a un véritable problème de citoyenneté. Aujourd'hui, quels sont les retours qui vous parviennent du terrain à travers ce rapport, Amadou Magiraga? Vous êtes chercheur à l'IMRAP.
Oui, on a toujours le point de vue des deux camps. De la population qui est là à charger toujours les autorités, qu'elles soient élues ou traditionnelles. Mais il y a le point de vue des autorités, elles aussi. Par rapport à en lien avec la décentralisation, surtout dans la gestion des communes, il faisait allusion tout de suite à l'élaboration des PDSEC. Il y a toujours ces deux camps-là qui sont là. Le maire pense que quand il fait les PDSEC, il fait appel à la population qui ne répond pas à l'appel. Compte tenu de certains facteurs, soit parce qu'ils ne sont pas du même bord politique que le maire, ou parce qu'ils pensent pouvoir saboter les actions du maire qui est là. La population, à son tour, nous dit que, comme l'a dit Diko, qu'elle n'est même pas informée lors de l'élaboration du PDSEC. Nous, en tant qu'insécis, on ne sait pas qui a raison ou qui a tort. Mais par rapport au paiement des impôts aussi, le maire nous dit que dès l'instant où il est élu maire, la population, lui, se trouve entre le marteau et l'enclume, au fait. La population qui a voté pour lui, pour qu'il soit maire, pense que lui, il a un devoir de redevabilité vers lui, vers elle, parce que c'est moi qui t'ai élu maire. Donc, du coup, je ne dois même pas payer les impôts. Et le camp adverse est là, qui, ayant vu leur candidat échouer, font tout pour boycotter le mandat du maire, en ne pas payant les impôts. Mais quand on retourne à la base, demander à la population, ils disent qu'il n'y a pas de traçabilité. On paye les impôts chaque année, mais on ne sait pas où va cet argent, à quoi ça sert. Voilà.
Alors, Djibril Diallo, vous avez le dernier mot de cette émission. Dites-nous aujourd'hui si ce problème de citoyenneté aujourd'hui évoqué par les partis, le Mali peut venir à bout de cette difficulté.
Bien sûr. Vous savez, lorsqu'on doit soulever un poids, il faudrait une répartition des forces pour pouvoir soulever le poids. Le poids au Mali aujourd'hui, pour arriver à quelque chose de potable, est très, très, très lourd. Et la responsabilité est dangereusement partagée, et même c'est mitigeux. Donc ce qui est évident, c'est que, en parlant d'abord de décentralisation, le nom même qu'on a donné à cette décentralisation dans nos langues nationales est un nom qui est trop compliqué. On a appelé Bejefanga, c'est-à-dire le pouvoir de tout le monde.
Alors, malheureusement, je suis obligé de vous arrêter car c'est la fin de cette émission, une émission qui portait sur les défaillances de la gestion des affaires publiques au Mali. Et pour cela, nous étions avec trois invités, Amadou Magiraka de l'IMRAP, Djibril Diallo, spécialiste du développement, et Dr Brema Ilidiko, universitaire chercheur. Je suis Famoussa Sidibé, Petit Ndiara était à la mise en onde, Nouhoum Diré était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain et bonsoir.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halou de Maoune.
Chenibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.